Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui dans ce jeudi saint, au cœur même du mystère de notre salut, où se trouve mêlé à la fois le bonheur, la tristesse et le bonheur retrouvé. Le bonheur, la souffrance et la fin de la souffrance et le bonheur retrouvé. Le mystère même du Saint Sacrifice de la Messe et de cette première Eucharistie, de cette heureuse grâce, de cette vraie grâce, de ce vrai don de Dieu, se trouve à la croisée de ce bonheur et de cette souffrance. Oui, le bonheur, c'est ce pourquoi la Sainte Trinité, Dieu qui est charité et qui est amour, nous a créés. Il est lui-même heureux dans son éternité et il veut nous faire partager ce bonheur. Il veut nous unir à lui pour que nous soyons heureux avec tous ceux des esprits, des purs esprits qui ont choisi ce bonheur, qui ont été fidèles à la grâce. Ainsi donc, c'est pour un bonheur, une joie éternelle, qui est en Dieu, que nous avons été créés. Et la chute, l'obstacle, le fait de trébucher et de tomber, le péché, peccatum, la chute, est un malheur et interrompt ce chemin, un chemin qui était tout tracé et qui était la volonté première de Dieu. Dieu n'a jamais voulu le péché. Il n'a jamais organisé les choses pour qu'il y ait du malheur, pour qu'il y ait de la souffrance, parce que Dieu est charité, Dieu est amour. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a même créé les anges, les purs esprits, il n'a pas voulu que ce chérubin, Lucifer, se détourne de lui. Il n'a pas organisé cette révolte. Et la liberté de Lucifer aurait pu s'unir dans la grâce, à l'obéissance et à l'amour d'un Dieu créateur, des anges, des purs esprits. De la même façon, pour nous, nous devions vivre heureux sur cette terre. Nous devions être dans la famille, l'union de l'homme et de la femme et de la multiplication de ses enfants dans le bonheur, dans la paix, dans cette association toute particulière qui est le mariage heureux, dans l'amour de celui qui est masculin et de celui qui est féminin, de celle qui est féminine. En effet, Dieu a voulu cette complémentarité, cette diversité dans la nature humaine, dès le début, dès le commencement. Alors, comment est venue cette désunion? Une désunion qui, ce soir, dans cette première messe que Jésus célèbre, en donnant son corps et son sang, cette désunion qui va à l'encontre de cette communion. Dieu, qui connaît bien notre nature, a fait un geste inouï et étonnant pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il veut nous donner la vie. Il se donne à nous sous la forme de nourriture. Nous le mangeons. Et ce que nous mangeons, ensuite, entre dans la constitution de notre corps, de notre être. Car notre nature humaine est profondément unie entre âme et corps. La mort pour nous est un malheur, la séparation de l'âme et du corps n'est pas naturelle. Dieu nous a créés avec les dons préternaturels. Il nous a créés immortels, impassibles, insusceptibles de maladies. Il nous a créés intègres, c'est-à-dire dans une union totale de nos puissances, de l'intelligence, de la volonté, en maîtrisant totalement les pulsions et les passions de notre corps, dans une heureuse harmonie. Et il a donné à nos premiers parents ce don de science infuse, pour qu'ils connaissent ce qui les entoure. Voilà donc cette volonté de Dieu de notre bonheur. Alors comment est venu le malheur? Comment est venu le péché? La désunion. Si Jésus a voulu que cela soit un repas et que nous mangions l'agneau pascal dans un repas de mariage, au repas, au festin des noces de l'agneau, dans cette volonté de mariage où le roi, le père, donne son fils pour qu'il se marie comme aux noces de Cana à la nature humaine. Cette communion, cette union, cette joie, ce repas qui nous vivifie, cette nourriture qui nous vivifie. Comment avons-nous refusé de manger? Comment avons-nous refusé d'être unis à Dieu? Comment avons-nous refusé de manger l'agneau innocent d'un an sans tache? Eh bien, parce que nous avons voulu être des dieux. Nous avons considéré que Dieu était un menteur, que la Sainte Trinité était dans la méchanceté, et que s'il nous avait fait venir à l'existence, c'était pour nous voir souffrir. C'est le murmure du peuple juif qui, pourtant, en quittant le pays du péché, le pays d'Égypte, avait offert cet agneau tout blanc, immaculé, sans tache, d'un an. Ils l'avaient mangé et ils avaient mis le sang de cet agneau sur les linteaux, sur les montants des portes de leur maison. Et voilà que, après des siècles, nous qui avons reçu ce don, ce sacrifice où Jésus, de manière non sanglante, donne déjà sa vie humaine, lorsque ce corps sera épuisé et que ce sang s'échappera par les blessures de la flagellation, du couronnement d'épines, de la crucifixion, et enfin par le coup de lance. Voilà donc cette violence, cette méfiance, cette jalousie et cet orgueil qui fait nos querelles, nos disputes. Alors même que Jésus nous dit que dès le commencement, il était cet amour entre l'homme et la femme. La véritable religion, la véritable charité, justement, a éloigné pendant des siècles la répudiation, la polygamie, le divorce. Et c'est en abandonnant ce don précieux de la vraie religion, de l'amour, de ce Dieu charité et amour, que petit à petit nous nous sommes écartés de la vérité. Et comme le dit saint Paul, qui déjà à son époque constate que un certain nombre de baptisés communient sans être en état de grâce et sont malades et infirmes, nous voyons nos pays chrétiens, plus particulièrement en ce carême 2020, malades et infirmes. Nous sommes même privés de communion. Comment allons-nous communier lorsque cette épreuve cessera? Comment allons-nous retrouver le chemin de la Sainte Table? Comment allons-nous manger l'agneau pascal? Comment allons-nous nous préparer dans l'humilité? Comment allons-nous vraiment nous confesser. Comment allons-nous croire dans les sacrements? Comment allons-nous croire que Jésus a voulu ordonner à sa place Simon, cet homme plein d'impulsions, qui ne veut pas que le Christ lui lave les pieds? Et quand Jésus lui dit que s'il ne participe pas à ce geste d'humilité, que le Maître, que Dieu lui-même nous lave nos pieds humains, voilà que cet homme, plein de dynamisme et de générosité, mais plein de faiblesse, lui demande de lui laver même la tête et les mains. Et pourtant, il l'abandonnera. Et pourtant, il suivra en quelque sorte l'exemple de celui qui va trahir et de celui qui va désespérer en voyant le sang du juste répandu à cause de lui, Judas Iscariote. Alors, comment nous-mêmes nous allons avoir une conscience purifiée? Comment allons-nous aller vers un prêtre? Quand pourrons-nous aller vers un prêtre? Avons-nous voulu des prêtres? Avons-nous donné des vocations? Avons-nous accepté ces vocations? Est-ce que nous n'avons pas été étouffés par les soucis de ce monde, par la volonté de plaire, par la volonté de dire qu'il n'y avait plus de péché et que tout était possible? Voilà que saint Paul ce soir nous rappelle la délicatesse avec laquelle nous devons communier. Délicatesse qui nous permet de discerner l'amour du Christ qui donne sa vie. Alors maintenant, après ce bonheur premier pour lequel nous avons été créés, après le malheur de la rupture de la communion et de l'union à Dieu, voilà que, en effet, il va nous être donné la possibilité de nous réconcilier avec Dieu, de recevoir à nouveau sa grâce et d'être purifiés par son corps et par son sang. Tout d'abord, humblement, quand la Sainte Église catholique nous demande de nous confesser au moins une fois par an. Et les baptisés, par paresse, eh bien, obéissent à ce commandement de l'Église une fois par an, alors qu'ils pourraient se confesser plus souvent. Mais l'Église, miséricordieuse, nous demande au moins une fois par an. Et comme elle nous demande de communier à Pâques, dans le temps pascal, dans les deux semaines avant ou après Pâques, maintenant même un mois avant et après Pâques, faire ces Pâques, c'est vraiment reconnaître que le Père nous a donné son Fils, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il nous a aimés jusqu'à donner sa vie, que sur la croix, il nous a donné sa propre mère, que le cœur immaculé de Marie a été transpercé, que le cœur sacré de Jésus a été transpercé. Et comment il nous a sauvés? Par les mérites de l'injustice de sa mort. Des mérites infinis qu'il nous a donnés en nous pardonnant. Il a accompli la volonté de son Père. Il a réconcilié la justice et la miséricorde. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le Père voulait cette prière. Dieu est amour, il ne veut pas que la justice. C'est lui qui a voulu l'incarnation. C'est lui qui a préparé l'âme immaculée de Marie. C'est lui qui a voulu Noël. C'est lui qui a voulu ce sacrifice non sanglant de la Sainte Messe, pour qu'à travers les siècles, nous puissions, sans avoir peur, assister à cette double consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang qui va être versée pour vous. Mais je suis ressuscité. J'ai vaincu la mort et j'ai vaincu le péché. Unissez-vous à moi, communiez, soyez unis avec moi, et je vous donnerai la vie de votre âme. Je vous la redonnerai, et je vous donnerai l'espérance, pour qu'au moment de votre mort corporelle, qui est si angoissante, vous puissiez croire en la vie éternelle, que vous puissiez ne pas avoir peur, et de vous donner tout entier, et de pardonner à vos ennemis, et de dès maintenant vivre en paix. Arrêtez vos mesquineries, arrêtez vos querelles, arrêtez vos violences, arrêtez même vos énervements actuellement. Abandonnez-vous à la vérité, abandonnez-vous à la justice, abandonnez-vous à la patience. Oui, ce Dieu si puissant et qui nous fait peur et qui laisse des personnes mourir comme il a laissé son père adoptif, Saint Joseph, mourir. Mais ne croyez-vous pas que Jésus a pleuré lorsqu'il a vu Joseph mourir? Quand il a vu le tombeau de Lazare, il a pleuré. Quand il a vu Jérusalem, il a pleuré. Quel déchirement pour Jésus de voir ce père adoptif qu'il a vu pendant 30 années mourir comme tout le monde, pour ensuite naître à la vie éternelle, attendre la mort et la résurrection de son fils adoptif, son ascension pour entrer dans le bonheur sans fin. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Il en coûte à Dieu le Père de voir mourir son Fils. Il en coûte à la Vierge Marie d'accepter que son Fils meure pour nous. Alors, lorsque cette épreuve sera terminée, espérons que nous pourrons faire une vraie confession. Espérons que nous pourrons faire une communion recueillie et profonde pour respecter cet amour de Dieu, pour respecter ce don qu'il nous a fait de sa vie, pour respecter la Sainte Messe, pour respecter la Sainte Hostie, ce Dieu présent avec son corps, son âme, sa divinité. Oui, vraiment, que nous puissions terminer ce carême dans une foi profonde, dans une espérance profonde et dans une charité authentique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.